Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et j'ai le plaisir d'être rejoint par Pierre Rigaud, notre spécialiste en faune sauvage qui intervient régulièrement dans cette émission. Bonjour Pierre.
Bonjour Natacha.
Merci d'ailleurs d'être avec nous en Zoom. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur nos réseaux sociaux, sur le Facebook de Sud Radio ainsi que sur notre chaîne YouTube. Pierre, avec vous, on va parler d'une décision qui fait grand bruit. C'est l'interdiction de la bromadiolone. C'est une substance chimique qui va être interdite à partir du 1er janvier prochain. Ça sert à quoi la bromadiolone exactement ?
C'est ce qu'on appelait la morora, ça sert à tuer des petits rongeurs essentiellement, et c'est énormément utilisé dans certains types d'agriculture, surtout dans certaines régions,
oui,
pour lutter contre ces animaux qui sont considérés, hélas, comme des ravageurs, parce que c'est vrai qu'ils causent parfois, lorsqu'ils sont très nombreux, des problèmes à des agriculteurs, soit dans des prairies, soit dans des champs. Et c'est une méthode de lutte chimique, donc, qui est assez terrible pour la faune en général. Parce que la particularité, c'est qu'il n'y a pas seulement les campagnols qui sont tués, mais aussi leurs prédateurs, lorsqu'ils se nourrissent des campagnols qui ont eux-mêmes ingéré ce poison.
Mmh.
Et il y a beaucoup de dommages collatéraux, et le produit est comment dire, si dangereux que finalement les autorités sanitaires ont décidé en effet de l'interdire à la fin de l'année.
Alors cette décision d'interdiction, elle avait été prise, mais elle devait arriver un peu plus tard. Pourquoi avoir un peu précipité les choses ?
Alors bon, moi je suis pas dans les secrets politiques de pourquoi cette décision, mais effectivement l'idée je pense c'est vraiment qu'on a considéré, enfin que les autorités sanitaires, l'ANSES en particulier, l'Agence nationale sanitaire, a considéré que c'était un produit trop dangereux. Bon, il était temps, hein, parce que ça fait quand même depuis plusieurs décennies, hein, depuis les années 70-80 que ce produit est autorisé. Alors, c'est vrai qu'il peut être très pratique pour des agriculteurs qui ont parfois des problèmes, mais franchement, sur le plan écologique, c'était assez terrible. Et les agriculteurs ont en fait d'autres moyens de lutter contre les campagnols, si on prend les choses sous cet angle, ou en tout cas de faire en sorte de mieux cohabiter avec ces petits rongeurs.
Bon, c'est pas ce qu'ils disent, hein, parce que cette décision, ouais, provoque vraiment une colère très forte de la part du monde agricole, qui se sont un peu démunis par rapport à ces rongeurs. Pierre, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces campagnols terrestres ? C'est quoi exactement ces petites bêtes, hein ?
Alors, ce sont des petits rongeurs qui sont assez discrets lorsqu'ils sont peu nombreux et qui vivent en général sous terre en faisant des galeries qu'ils creusent d'ailleurs avec leurs dents.
Ce ne sont pas des rats, c'est pas la même chose.
Non, alors comme ce sont ils font partie de la même famille des rongeurs comme les rats et les souris, mais eux sont plus, ont des oreilles moins visibles et une queue un petit peu plus courte, ce qui fait qu'ils apparaissent plutôt comme une petite boule de poils.
Mm-hmm.
On ne voit en général pas du fait que leur vie est surtout souterraine, mais ils sortent aussi en surface. Et c'est là qu'ils causent des dégâts aux agriculteurs lorsqu'ils mangent, parce qu'en fait, ils consomment tout simplement les plantes ou les herbes dans les prairies, que ce soit en surface ou que ce soit par les racines sous terre. Et il est vrai que même parfois, jusque dans des potagers ou même dans des vergers, eh bien, ils peuvent parfois manger les racines des arbres jusqu'à causer des soucis. Mais c'est surtout une question de quantité et d'abondance de ces animaux qui a la particularité d'être assez cyclique. Et on a comme ça des cycles qu'on appelle de pullulation, même si le mot n'est pas terrible, mais toutes les quelques années, eh bien, l'abondance de ces campagnols-là précisément augmente jusqu'à devenir très gênante pour les agriculteurs. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'espèces différentes de campagnols, hein, en France et en Europe, et que le campagnol terrestre n'est qu'une de ces espèces-là, et c'est une des quelques espèces de campagnols qui parfois posent problème.
Le campagnol terrestre s'attaque aux productions des agriculteurs, mais enfin, ce n'est pas le seul à causer des dommages. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on le cible lui précisément ? Bon, vous parliez de pullulation, c'est à ce point ils sont aussi présents que ça dans nos terres agricoles ?
Oui, le mot pullulation, je l'emploie parce que c'est quasiment devenu un mot officiel, même si j'aime pas trop ça. Mais en fait, on a en effet constaté depuis maintenant beaucoup d'années qu'il y a un problème qui est lié à l'abondance assez extrême parfois de ces campagnols, mais que nous, humains, avons provoqué par certains modes de culture qui... Ben, en fait, en faisant un boulevard pour ces animaux, puisqu'on a, dans certains paysages, éliminé toute possibilité pour leurs prédateurs de vivre même sur ces territoires, sur ces
prairies. Et qui sont leurs prédateurs d'ailleurs, Pierre ?
Alors, ce sont des rapaces, par exemple les buses variables, les milans royaux, des carnivores également, des mammifères comme les renards ou les belettes, les hermines, tout un tas de... En fait, toute une cohorte de petits prédateurs qui, lorsqu'ils sont suffisamment présents, parviennent généralement à limiter l'augmentation de l'abondance de ces campagnols. Mm-hmm. On ne les fait jamais disparaître complètement, et tant mieux, parce que le but n'est pas de faire disparaître des animaux.
Mais de réguler leur population, au moins.
Voilà, lorsqu'il y a une diversité de prédateurs sur place, eh bien, tout ça cohabite. Il y a les proies, il y a leurs prédateurs. Mais lorsqu'on élimine la possibilité pour qu'il y ait les prédateurs, eh bien, il y a une sorte de dérèglement, si on peut dire, qui fait que ces campagnols-là, en particulier cette espèce particulière de campagnol, a des cycles d'abondance, et c'est là que les problèmes commencent pour les agriculteurs. Donc mm-hmm. l'idée, ce serait plutôt en fait de faire en sorte qu'il y ait le retour de cette diversité sur les champs, sur les prairies et autour de ces espèces-là, de ces espaces-là, pardon, pour que l'abondance de ces campagnols soit limitée.
Et comment cela est-il possible ? Qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans le paysage agricole, justement, pour que la chaîne alimentaire soit complète, pour que chaque étape soit régulée, s'auto-régule ?
Eh bien, plus il y a de diversité, en fait, dans le paysage, en termes de haies, de buissons, d'arbres, des endroits où les prédateurs peuvent se cacher, eh bien, c'est ça qui permet que les prédateurs soient présents. Parce qu'évidemment, si on n'a que de l'herbe à perte de vue, comme c'est par exemple le cas sur certaines prairies dans le Massif central ou dans le Jura, c'est des paysages qui sont assez beaux visuellement sur un plan esthétique, certainement, parce que c'est vraiment de très grandes étendues herbeuses. Ça a l'air comme ça, bucolique, mais en fait, ça, c'est vraiment le paysage dans lequel ces campagnols terrestres s'épanouissent extraordinairement, puisque en fait ils ont tout ce qu'il leur faut, de l'herbe à perte de vue, de la terre meuble et tendre dans laquelle ils font leur terrier, et puis les prédateurs, eux, n'ont pas de place. Alors si on rajoute ne serait-ce que des perchoirs pour les rapaces qui peuvent comme ça faire des affûts, si on laisse les arbres pousser, si on met des buissons, si on fait en sorte que toute cette vie végétale se développe autour des parcelles, eh bien, ça limite tout de même l'abondance des campagnols.
Bon, on comprend quand même la difficulté pour les agriculteurs de gérer ces populations d'animaux, d'installer des supports pour leurs prédateurs, ça paraît pas simple à mettre en œuvre. Vous êtes d'accord quand même, Pierre, là-dessus ?
Oui, non, c'est un problème compliqué, mais de toute façon, en fait, l'interdiction de la bromadiolone, comme souvent lorsqu'on interdit un produit nocif, eh bien, d'autres produits arrivent, et là, c'est le cas, puisque finalement, les agriculteurs ont encore le droit d'utiliser d'autres produits qui sont jugés moins nocifs en termes d'effets secondaires pour les prédateurs, mais qui sont tout aussi terribles pour les campagnols eux-mêmes. En fait, les phosphures de zinc ou phosphures d'hydrogène, peu importe, sont des poisons qui apparemment ont une action radicale sur les campagnols, mais qui ont, d'après ce qu'on en sait, moins d'effets secondaires puisqu'ils s'accumulent moins dans le corps de ces animaux. Et donc, lorsque les prédateurs mangent un campagnol qui a ingéré ces substances-là, eh bien, le prédateur n'est pas tué, comme c'était le cas avec la bromadiolone. Mm-hmm. Et en fait, il y aurait aussi beaucoup de recherches spécifiques à faire pour mieux coexister entre les agriculteurs et les campagnols. Mais c'est vrai que souvent, on se contente d'un produit qui est existant sans tellement prévoir la suite. Alors, ce n'est pas les agriculteurs que je blâme ici, mais c'est plutôt un fonctionnement général qui fait que les agriculteurs se reposent sur l'existence d'un produit, et puis le jour où ce produit est interdit, tout le monde crie un petit peu au scandale. On peut le comprendre, mais disons que si on anticipe quand même, ça peut mieux se passer.
Juste une dernière question, Pierre, je ne sais pas si vous aurez la réponse, c'est pas une question pour vous piéger, mais une question qui va peut-être interpeller nos auditeurs. Les produits souricides, raticides que l'on achète en jardinerie, vous savez, les petits sachets roses ou bleus là, est-ce que c'est ce produit là ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que seuls les agriculteurs ont accès à la bromadiolone?
Alors, c'est un peu une question à laquelle je n'ai pas complètement la réponse, puisque théoriquement, c'est l'autorisation de mise sur le marché de ce produit, la bromadiolone, qui est interdite.
Oui.
Donc, théoriquement, la bromadiolone sera interdite partout.
Donc, on ne va plus le trouver.
Toujours, voilà. Non, on ne sait plus pouvoir la trouver, mais je suis certain qu'on trouvera toujours ce qu'on appelle la morora ou des poisons sous cette forme ou sous une autre forme. Ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, pas du tout à conseiller, ce que je personnellement ne conseille pas du tout d'utiliser, parce que là aussi il y a des effets, souvent des effets secondaires en fait pour par exemple les chouettes qui dans les maisons, dans les jardins peuvent manger les campagnols, les chats.
Et puis c'est vrai qu'on n'imagine pas toujours toute cette chaîne alimentaire et parfois quand on veut combattre certaines petites espèces qui nous embêtent, on peut faire des dégâts bien au-delà de ces espèces-là.
Ah oui, c'est un grand classique, hélas. Et puis la chouette qui a mangé un campagnol qui est à moitié empoisonné, cette chouette-là va aller mourir dans un coin sans que personne s'en rende compte. Donc c'est vrai qu'il faut toujours regarder un petit peu plus large. C'est de toute façon une notion complètement générale en écologie. Quand on agit sur un des éléments des écosystèmes, bah, ça a forcément des répercussions
secondaires. Des conséquences ailleurs. Merci beaucoup Pierre Rigaud pour cet éclairage sur cette interdiction de la bromadiolone.